France Inter.
Le temps de le dire, il est parfaitement 9h. Le journal Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour. Les espaces aériens rouvrent au Moyen-Orient après cette nuit de très grande tension durant laquelle l'Iran a lancé une attaque vers Israël. Plus de 200 drones et missiles tirés par la République islamique, quasiment tous ont été interceptés selon l'État hébreu. Dans ce journal également, la nouvelle loi numérique a été adoptée cette semaine par le Parlement français avec des intentions louables sur le papier mais qui seront difficiles à mettre en œuvre. Et puis nous irons au Salon du Livre de Paris qui met à l'honneur des écrivains québécois parmi lesquels des auteurs autochtones de plus en plus nombreux et entendus.
Et à 9h10 sur Inter, Interception nous emmène en mer à la rencontre de ceux qui inventent le futur de la marine marchande, une marine qui sera largement décarbonée. Reportage sur les cargos à voile par Antoine Gignot, ça sera juste après le journal.
France Inter. Le Moyen-Orient se réveille d'une nuit particulièrement agitée. L'Iran a lancé plus de 200 drones et missiles sur Israël en riposte à l'attaque il y a 2 semaines du consulat iranien à Damas, en Syrie. Attaque attribuée à Israël. La République islamique estime ce matin s'être vengée. Les espaces aériens d'Israël, du Liban, de l'Irak et de la Jordanie sont désormais rouverts. L'attaque a été déjouée selon l'État hébreu. Bonjour Élise Delève.
Bonjour.
De la rédaction internationale de Radio France. L'État hébreu qui affirme que 99% des tirs iraniens ont été interceptés par Israël et ses alliés.
Oui, les alliés dont les Américains, ça on le savait dès cette nuit, mais aussi les Français. Un porte-parole de l'armée israélienne vient de l'expliquer. Il n'a pas précisé si la France avait envoyé des avions pour abattre les missiles, mais a souligné la qualité de la technologie des radars et des avions français. Une technologie qui, selon Israël, a contribué à patrouiller l'espace aérien. Un peu plus tôt dans la nuit, le ministre des Affaires étrangères a fermement condamné l'attaque iranienne. L'Iran a franchi un nouveau palier dans ses actions de déstabilisation, a écrit Stéphane Séjourné. Berlin craint que ces frappes plongent la région dans le chaos et les États-Unis rappellent leur soutien inébranlable à Israël. L'Égypte, qui fait partie des pays négociateurs dans la guerre à Gaza, met en garde contre un risque d'expansion régionale. De son côté, Téhéran s'estime vengé de l'attaque de son consulat le 1er avril. Explosion de joie dans les rues iraniennes ce matin. Et à l'instant, le chef d'état-major des armées iraniennes indique que tous les objectifs de l'opération ont été atteints avec succès.
Après cette nuit qui a donc remué toute la communauté internationale, plusieurs rendez-vous sont prévus.
Oui, Joe Biden s'est entretenu par téléphone avec Benjamin Netanyahou cette nuit. Il a convoqué un G7. Ses membres devront discuter pour coordonner une réponse diplomatique. Il y aura aussi à suivre une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, ce sera dans la soirée. Les Nations Unies parlent d'une grave escalade. Son secrétaire général Antonio Guterres demande une cessation immédiate de ces hostilités.
Merci Élise Delève. De son côté, Israël dit n'exclure aucune option. Alona Fischer-Kam, ambassadrice et chargée d'affaires d'Israël en France, était au micro de nos confrères de France Info. Selon elle, toutes les options sont sur la table.
On ne peut exclure rien. Mais Israël ne fait aucune menace. Israël a gardé tout un silence et sur cette question de comment on va répondre. Mais je crois que c'est tout à fait normal qu'aucun pays ne resterait sans réagir et dans un cas pareil. Cela dit, Israël n'a pas mentionné son intention d'attaquer l'Iran, de répondre, de riposter ou quoi que ce soit.
Et en parallèle, les alliés de l'Iran, dont le Hezbollah libanais, ont aussi tiré des salves de roquettes. Le risque d'escalade reste donc très élevé et tient le monde entier en haleine. Pour le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, il existe plusieurs scénarios.
Il faut souhaiter qu'en fait, ça soit un tir en quelque sorte unique, hein, histoire pour Téhéran de dire qu'il venge en quelque sorte l'attaque du 1er avril contre le consulat qui était à Damas. Parce que si c'est l'autre hypothèse, eh bien là, on rentre dans une escalade qui ne serait plus maîtrisable. Parce qu'en fait, les Mollahs savent très bien que le rapport de force ne leur est pas favorable. Donc, ça permet pour Téhéran d'envoyer un message à sa propre opinion publique, qui est très nationaliste, en disant « Vous voyez, nous avons vengé les morts de Damas. » Bon, si c'est que ça, on aura chaud, mais c'est maîtrisable. Si derrière, il y a d'autres frappes, là, ça devient beaucoup plus dangereux, parce que de toute façon, Israël répliquera.
Et le général Pellistrand dit sur France Info. Et du côté de Gaza, les services de renseignement israéliens affirment que le Hamas a rejeté le dernier projet de trêve, celui mis sur la table il y a une semaine par les médiateurs, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar. En Australie, l'homme qui a tué 6 personnes au couteau dans un centre commercial de Sydney hier a été formellement identifié par la police, qui confirme que la piste terroriste est totalement écartée. L'assaillant souffrait de troubles mentaux. Il a été abattu par une policière australienne. C'était l'un des événements marquants de la semaine au Parlement. L'adoption définitive mercredi du projet de loi dite SREN pour sécuriser et réguler l'espace numérique. Après un dernier vote à l'Assemblée nationale et des discussions très laborieuses de plusieurs mois, le texte en sort largement remanié pour se conformer aux textes européens. Il s'agit d'un projet initialement très ambitieux pour lutter contre le cyberharcèlement et les propos haineux, les arnaques en ligne ou bien encore limiter l'accès des mineurs à la pornographie. Des tension sur le papier plus que louable, mais qui dans les faits risque de mettre du temps à s'appliquer. Bonjour Xavier Demany.
Bonjour.
Et notamment le contrôle de l'âge sur les sites porno qui n'est pas pour demain.
Oui, l'ARCOM, autorité de régulation, doit élaborer une sorte de fiche technique, mais ce n'est pas encore gagné, estime Marc Ries, journaliste spécialisé au magazine en ligne L'Informé.
Considérer que ces sites vont faire le dos rond et avaler tout ce qu'on va leur proposer, c'est faire preuve de naïveté. Ils sont extrêmement combatifs et le moindre angle mort fera l'objet d'une pluie de recours de la part de tous ces acteurs-là qui ont une réelle puissance économique.
Plusieurs associations de protection de l'enfance dénoncent un micmac inapplicable, d'autant plus que la France n'a autorité directe que sur les sites installés sur son territoire ou hors Union européenne. Pour ceux installés en Europe, comme Pornhub par exemple, il faut d'abord passer par les autorités du pays où il est installé, Chypre en l'occurrence.
Mais ce n'était pas le seul point à éclaircir, Xavier.
Non, le filtre anti-arnaque, par exemple, une sorte de fenêtre qui vous prévient quand vous accédez à un site identifié comme malveillant, il n'est pas tout à fait au point sur le plan technique.
Ce dispositif, il devait être testé pour la Coupe du Monde de rugby. Finalement, ça ne s'est pas fait. Il devait entrer en vigueur pour les Jeux Olympiques. Finalement, ça ne va pas se faire non plus. Et le dispositif n'est pas du tout prêt.
Le texte contient également un délit d'outrage en ligne que certains députés ou acteurs du secteur interprètent comme une privation de liberté et veulent déjà porter devant le Conseil constitutionnel.
Merci Xavier Demany.
Et une bonne idée, faire un détour au Salon du Livre.
Encore aujourd'hui et jusqu'à ce soir, le Québec est l'invité d'honneur du Festival du Livre de Paris, avec 42 écrivains québécois à rencontrer. Et parmi les grandes tendances de cette scène littéraire bouillonnante, on retient l'émergence d'une littérature autochtone. Les voix des Premières Nations du Québec, jusque-là ignorées, commencent à se faire entendre, Ilana Mor-Youssef.
Pendant des années, Michel Jean n'a pas dit à ses employeurs qu'il était d'origine Innu. Jusqu'à la vidéo qui a choqué le Québec en 2020, celle de Joyce Echaquan, une autochtone de 37 ans, morte à l'hôpital, faute de soins.
Comme elle était autochtone, le personnel croyait qu'elle était ivre ou droguée. Il se moquait d'elle. Puis elle s'est filmée sur Facebook Live parce qu'elle était en train de mourir. Cette vidéo-là a choqué le Québec.
Pure coïncidence, le roman de Michel Jean, Koukoum, est sorti un mois après. 200 000 exemplaires vendus.
Koukoum, c'est un roman sur la sédentarisation forcée des Autochtones. On a été dépossédés du territoire. Ensuite, les enfants enlevés, envoyés dans les pensionnats autochtones. Mais au lieu de faire un essai, je l'ai raconté à travers ce que ma famille a vécu, parce que ma famille l'a vécu.
Les voix autochtones ont maintenant une place dans les rayons des librairies. Éric Simard, l'un des libraires les plus influents de Montréal.
Depuis quelques années, du côté du ministère de la Culture canadienne, ils ont décidé de mettre un peu de pression chez les éditeurs pour qu'ils publient de la littérature autochtone. Et ça a eu un impact important. Il a fallu des politiques pour un peu sonner le réveil. On est tous un peu coupables. Mais moi, je suis content que des fois que c'est la culpabilité qui nous fait avancer.
Parmi les grandes voix autochtones, la poétesse Joséphine Bacon ou encore Naomi Fontaine, on peut feuilleter et même acheter leurs œuvres au Pavillon du Québec.
Le Festival du Livre de Paris, dont France Inter est partenaire, c'est au Grand Palais éphémère jusqu'à ce soir. En sport, douche froide pour La Rochelle en rugby, éliminé dès les quarts de finale de la Champions Cup par les Irlandais de Leinster. Les Rochelais avaient remporté les deux dernières éditions. Et puis l'équipe de France féminine retrouve les terrains ce midi pour le troisième match du tournoi des Six Nations. Les Bleus qui comptent 2 victoires pour le moment contre l'Irlande et l'Écosse. Et puis la finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, c'est du tennis. C'est cet après-midi à 15h avec un duel surprise entre le Norvégien Casper Ruud et le Grec Stefanos Tsitsipas. Les numéros 10 et numéro 12 mondiaux ont éliminé les deux meilleurs joueurs du monde en demi-finale, Novak Djokovic et Yannick Sinner.
C'était le journal de Laura Dulieu. Il est 9h09 sur France Inter.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Camille Esnault, les nuages laisseront un peu plus de place au soleil cet après-midi.
Et oui, seule une petite moitié nord et les côtes de la Manche resteront sous un voile nuageux assez dense. La côte aquitaine aura aussi du mal à se défaire de la grisaille. Les températures, elles restent bien au-dessus des normales en région PACA et sur le sud-ouest où on atteindra encore par endroits les 30 degrés. Du centre au nord-est, il fera 22 à 26 degrés alors que sur le nord-ouest, ça baisse avec 15 à Saint-Brieuc par exemple, 15 dans le Cotentin également, 17 à Évreux, 18 à Lorient ou encore 21 à Chartres.
Et des ondées sont attendues cette nuit, des averses quoi.
Oui exactement, elles arriveront, oui on peut dire des averses, elles arriveront par la Manche et s'installeront pour la nuit. En cours de nuit, des averses également gagneront la Bourgogne, la Franche-Comté et le Grand Est avec des orages qui pourront éclater aussi. Ce front pluvieux va gagner demain tout le pays sauf le pourtour méditerranéen qui restera baigné par le soleil.
Oh,
mais
joli,
sous un vent, ben oui, sous un vent d'ouest et une tramontane qui souffleront par contre à 80 km/h en rafale. Et dès lundi, une baisse des températures qui s'amorce avec un pic de fraîcheur attendu mercredi.
Merci et un grand merci aux équipes du 6-9 à la réalisation, Thomas Langlin, Marie Mérier et David Diboué-Black, à la rédaction en chef des journaux, Nasser Madji, assisté de Souad Bellani, à la programmation des invités, Mathilde Clatt et Elodie Royer, à la documentation, Maëlle Polsinelli, à la coordination, Benjamin Ducy, à la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, et au standard, Emma, Antoine, Chiara et Marie-Lou. Dans un instant sur Inter, vous avez rendez-vous avec le magazine Interception, Cargo, Voile, La France a le vent en poupe, un reportage d'Antoine Gignot.